Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie. Je suis très heureux de recevoir dans ce studio quelqu'un qui le connaît assez bien. Enfin, il connaît le studio principal. Là, aujourd'hui, nous sommes dans l'annexe. Il s'agit de Albert Villemetz qui vient nous parler de « Ceux de chez nous, Sacha Guitry », paru aux éditions des Amis de Sacha Guitry, tout simplement.
Absolument.
Et nous vous reverrons dans quelques semaines parce que là, vous venez de publier un nombre considérable d'ouvrages, comme par hasard, consacrés à Sacha Guitry.
Qui sont en réalité les œuvres de Sacha Guitry qui n'étaient plus publiées. Donc nous sommes en train, à l'association des Amis de Sacha Guitry, avec l'ayant droit Christian Aubard, de republier les pièces de théâtre, tous les romans et les écrits de Sacha Guitry. Et croyez-moi, cela va jusqu'au cinéma.
Et aujourd'hui, nous parlons cinéma en même temps, puisque « Ceux de chez nous », c'est un film qui a eu deux vies, entre guillemets, la vie muette et la vie parlée.
Absolument. Voilà l'origine de ce film « Ceux de chez nous ». Les Allemands, appelons-leur par leur nom, ont fait un manifeste au moment de la Première Guerre mondiale, disant que la France était en une situation de décrépitude intellectuelle et qu'heureusement, ils étaient là pour pouvoir nous apporter quelque chose de mieux. Sacha Guitry, outré. Sacha Guitry, qui, dès sa première pièce de théâtre en 1905, interdisait que ses pièces soient jouées en Allemagne à cause d'Alsace-Lorraine, donc il est anti-allemand depuis l'Alsace-Lorraine, réagit, et plutôt que donner des arguments, il montre, dans un film éblouissant, celui dont vous parlez, « Ceux de chez nous », les hommes les plus illustres que nous avions en France à l'époque et qui étaient vivants.
Donc, les hommes et une femme.
Et une femme, voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a Madame Sarah Bernhardt, celle que Sacha Guitry appelait celle que je considère comme ma seconde mère. Mais les hommes connus du monde entier, en dehors de Sarah Bernhardt qui est connue du monde entier, c'est bien sûr Claude Monet que Sacha Guitry va filmer chez lui, à Giverny, en train de peindre, ce qui n'avait être fait par personne, car si on n'était pas un ami de Monet, on ne pouvait pas avoir cette possibilité-là, et toute une série d'autres personnalités extraordinaires, puisque vous voyez Renoir en train de peindre ses doigts déformés par la maladie, puisque vous voyez Rodin en train de sculpter, vous voyez Edmond Rostand, vous voyez Camille Saint-Saëns diriger un orchestre.
Qui est composé d'un piano.
Voilà, absolument. Il joue au piano et après, il fait un énorme orchestre. Enfin, et Maître Henri Robert, qui était un grand, très grand avocat. Anatole France, aussi un ami très proche de Sacha Guitry, qu'il aime beaucoup. Deux gars qu'il ne connaissait pas, mais qu'on filme dans la rue rapidement.
Clandestinement.
Hein. Clandestinement.
Il explique comment il était reçu très très mal par Degas, d'ailleurs.
Oui, Degas n'avait pas été reconnu du tout par... comme il devait l'être, il vivait très pauvrement du côté de Pigalle, dans un étage très élevé, avec des moyens très modestes, et son mauvais caractère, qui avait été un peu constant, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à dire des choses que l'on ne peut pas dire, notamment pour les critiques ou pour d'autres personnes.
Oh oui, lorsqu'il parlait de certains de ses confrères, c'était pas très très
voilà.
Gracieux.
Et donc ce film va réunir... on voit aussi un très grand acteur qui a fait beaucoup pour le théâtre, qui est Antoine, que Sacha Guitry honorera après d'un gala pour lui permettre
d'avoir... Il y a toujours le théâtre Antoine qui existe.
Absolument. Et Antoine a été un des grands piliers, et Sacha Guitry était très proche d'Antoine. Donc, il montre ce qui est le plus extraordinaire en France et en général connu dans le monde entier, partant du principe aussi, comme dit toujours Sacha, le public, c'est notre pays. Y avez-vous pensé? Alors, ce n'est déjà pas rien de pouvoir l'amuser, le divertir, de pouvoir l'émouvoir. Mais est-ce que ce ne serait pas beau de pouvoir lui faire du bien? Et c'est exactement ce que fait Sacha Guitry dans « Ceux de chez nous », nous montrant ce qui est beau, car ce qui est beau est bon à la même origine latine, et ce qui est beau élève l'âme. La recherche de la beauté, montrer la beauté, est quelque chose qui augmente l'être humain. L'inverse ne fait pas dans la même direction, forcément.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que ce film avait eu deux vies, en quelque sorte. Il y a eu la vie muette, et ensuite, lorsqu'il y a eu le cinéma sonore, c'est là qu'il a décidé donc de le commenter.
Voilà. En réalité, le premier film, c'était l'époque du muet. Alors forcément, pour Sacha Guitry, le muet, c'est quand même pas absolument évident. Immédiatement, le film est projeté. Il est doublé avec les commentaires en vrai de Sacha Guitry qui est là. Par la suite, il va, avec Frédéric Rossif, pouvoir refaire le film en rajoutant les commentaires et un texte merveilleux avec des anecdotes extrêmement touchantes, intéressantes, belles, que l'on trouve dans le livre que nous avons appelé « Ceux de chez nous » et que nous avons complété par toute une série de grands hommes et de grandes femmes françaises qui donnent à nouveau de très bons exemples de ce que l'on peut faire dans le domaine de l'art ou de la littérature.
Il y a de nombreuses anecdotes dans cet ouvrage. Prenons celle, par exemple, du fameux pinceau qu'il avait demandé à Monet.
Oui, une dame américaine avait demandé à Claude Monet, après avoir acheté un tableau, « J'aimerais bien avoir un pinceau qui puisse être signé. » Alors, vous ne trouvez pas que c'est ridicule ? Sa chambre, non, pas du tout, d'ailleurs. « Est-ce que vous ne voulez pas m'en signer ? » Alors, Monet dit, « Bon, ça vous fait plaisir. » Et Sacha prend le pinceau le plus usé, celui qui a servi à peindre tant de chefs-d'œuvre, et le tend à Monet qui répond « Mais prenez-en un neuf, au moins qui vous serve à quelque chose. » Et donc, dans le livre, on a la photographie avec le pinceau, mais dans un autre livre merveilleux qui s'appelle « Chez Sacha Guitry », nous avons publié les tableaux de Monet, les extraordinaires merveilles qui avait juste connu Giverny, et puis après, la maison de Sacha Guitry.
Concernant Sarah Bernhardt, elle a été filmée après l'opération, son amputation, puisqu'elle a une jambe coupée.
Exactement, elle venait juste de se faire amputer, elle avait essayé une jambe, et elle trouvait ça dégradant, et elle n'avait pas voulu la voir, si bien que dans la fameuse photographie du mariage de Sacha Guitry avec Yvonne Printemps, vous la voyez debout, avec Fedot à droite et Sacha à gauche, elle est debout, mais elle est debout sur une jambe, comédienne jusqu'au bout, elle, loin de se laisser abattre, au contraire, elle se tenait debout moralement et psychologiquement, une chose qui est tout à fait extraordinaire. Et Sacha Guitry, pendant l'occupation, en juin 40, a décidé de faire reparaître ce de chez nous. Mais forcément, les Allemands, à juste titre d'ailleurs, la disaient juive. Donc, ils n'avaient pas le droit de pouvoir. C'était totalement interdit. Il la laissait. Il y a eu plus de 50 représentations avant que la censure le prenne vraiment très mal. Et n'oublions pas qu'il commençait toujours en parlant de Madame Sarah Bernhardt, celle que je considérais comme ma seconde mère.
Autre personnage dont nous n'avons pas encore parlé, qui est très très important, c'est Lucien, son père.
Ah, nous publions beaucoup de choses également sur Lucien Guitry, qui était le plus grand acteur de cette génération, l'équivalent de Sarah Bernhardt en homme. Un homme libre, ce qui est tout à fait rarissime, libre comme était Sacha Guitry, libre comme était Sarah Bernhardt, parce que ne dépendant financièrement de personne. Lucien Guitry, dès l'âge de 20 ans, ne veut pas jouer dans un grand théâtre à Paris, il doit payer une somme énorme, et il part à l'étranger où on lui offre un très joli contrat. L'étranger, c'est la Russie, c'est pour ça que Sacha Guitry va y naître.
Sarah... Et qu'il aura un parrain prestigieux.
Et absolument, vous avez entièrement raison, puisque naissant à Saint-Pétersbourg, il va avoir comme parrain le tsar Alexandre III, si bien que le vrai prénom de Sacha Guitry, c'est Alexandre, diminutif Sacha, bien entendu. Il y a un autre précédent, si j'ose dire, le fils de Molière, également, avait comme parrain Louis XIV, ce qui montre un parallélisme que j'aime bien. Donc, Lucien Guitry, totalement indépendant, qui a tout créé, l'Aiglon, avec Sarah Bernhardt et combien d'autres pièces absolument fabuleuses, est indépendant. Sarah Bernhardt, totalement indépendante, elle fait absolument ce qu'elle veut, c'est une femme libre, et Sacha va toujours faire ce qu'il veut aussi, quitte à que ce soit dans ses textes qui sont toujours d'une actualité, d'un humour et d'une façon extraordinaire de raconter les choses, parce qu'il ne dépend de personne. Il suffit qu'il monte sur scène pour pouvoir être indépendant financièrement. Car si on n'est pas indépendant financièrement, on n'est pas vraiment libre. Et tout ce qu'il va, n'ayant pas un centime quand il a 20 ans, sa première pièce marche très bien, les autres marchent très bien, et tout l'argent qu'il a, il va le dépenser pour acheter des tableaux. Ce qui est une chose qui est également totalement inhabituelle et qu'on voit très peu. Et dans le fameux film Le Trésor de Cantenac, Sacha Guitry dit: il n'y a qu'une façon digne de s'enrichir par le travail. Il développe la chose, il est assez. C'est tout à fait étonnant. Et son père, Lucien Guitry, qui a fait construire l'hôtel du 18e avenue des Éreclus, a eu le record de représentation de misanthrope, de Tartuffe. C'était le comédien le plus connu, comme Sacha a
Et
été le
son
comédien le
hôtel
plus connu.
particulier, c'est un vrai trésor. On aurait pu en faire un musée.
On aurait dû en faire un musée. D'ailleurs, Sacha, plusieurs fois, l'a essayé pour l'Académie Goncourt à laquelle il l'avait donné. Mais il y a eu quelqu'un qui n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Erreur. L'État français de l'époque ne le voulait pas non plus. Il a pensé à certains pays d'Amérique latine, puisque l'hôtel avait été fait avec des tournées de Lucien Guitry en Amérique latine, qui était très, très, très bien rémunéré à l'époque. Et malheureusement, tout ça est parti. Il n'existe plus aujourd'hui que le livre que nous avons publié, avec une telle quantité de merveilles que même moi qui connais un tout petit peu le sujet, j'en ai découvert. Parce que quand vous avez de Rembrandt jusqu'à Picasso, en passant par Toulouse-Lautrec, en passant par tous les grands peintres, par Cézanne en autoportrait, par Renoir, par qui peint Mallarmé, par Renoir qui peint son fils, Dufy, Modigliani, ils sont tous là. Et bien entendu, combien du Trillo? Et très souvent, ce n'est pas un, deux, trois, mais c'est une demi-douzaine de ces tableaux. Il y a plus de 300 lots. Et puis, il y a tous les manuscrits, l'éducation sentimentale, 2600 pages, Poil de carotte que Sacha Guitry a sauvé. Nous avions un jour parlé de Jules
Jules
Renard.
Renard, tout à fait.
Et donc, c'est un véritable musée, vous avez entièrement raison. Et ce livre permet de le faire revivre avec la description des lots, l'explication, et également cette merveilleuse édition de l'École des femmes de Molière, où Molière, de sa main, a barré le mot amour pour écrire esprit. Et Sacha Guitry avait réussi à pouvoir l'avoir.
Nous allons laisser passer un communiqué si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie d'Albert Villemette pour Ceux de chez nous, Sacha Guitry, paru dans la maison d'édition Les Amis de Sacha Guitry. Avant de continuer à parler de cet ouvrage, je voudrais que nous parlions de quelques événements. Alors déjà, le prochain numéro de Libre Arbitre qui sort au mois de mars, c'est un spécial Guitry.
Oui, le livre est entièrement consacré à Sacha Guitry et je remercie beaucoup M. Wagner d'avoir prévu et réuni autant de textes. J'ai écrit quelques textes, mais d'autres personnes comme Jean Tullard, par exemple, Alain Pocard, ou des personnes qui connaissent très bien le sujet, sont également présentes.
Il va y avoir une dédicace le 21 mars à la librairie du Ken, avenue du Ken.
Oui, ce sera deuxième dédicace à la librairie du Ken, librairie extrêmement efficace, très bien gérée par Monsieur Gros, qui m'a demandé de revenir une deuxième fois le samedi 21 mars pour dédicacer des
Ce
livres.
qui prouve que c'est un succès.
C'est très gentil.
Et il y a maintenant, vous avez pensé avec l'association à créer le prix Sacha Guitry.
Voilà, avec Christian Aubard, nous nous sommes dit qu'il fallait récompenser une personne exceptionnelle de l'année qui a pu mettre en avant avec énormément de talent. Alors, Michel Faux nous a semblé absolument la personne qui correspond.
Il joue actuellement La Jalousie pour quelques jours encore.
Au théâtre de la Michaudière, théâtre que j'ai si bien connu puisque mon père en était l'administrateur, où j'ai connu Yvan de Printemps pendant 20 ans. Et c'était donc très émouvant de pouvoir lui remettre sur scène à ce grand comédien, là où j'avais vu avant Pierre Fresnay jouer et tant d'amis de mes parents et de mes grands-parents, pouvoir lui remettre le prix Sacha Guitry 2026.
Puisque vous évoquiez Yvan de Printemps, nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques temps parce que vous avez également consacré un ouvrage à Yvonne.
Oui, c'est-à-dire que nous avons fait un livre qui s'appelle Sacha Guitry, Yvan de Printemps, mais qui ne parle que de leur relation. Et il était intéressant de pouvoir parler d'Yvan de Printemps dès sa naissance et puis jusqu'à la fin, c'est-à-dire la période concernant la Michaudière, justement, et également Pierre Fresnay. Et donc, j'ai beaucoup d'archives et des souvenirs personnels. Donc, c'était intéressant de pouvoir publier énormément de photographies également qui ne sont pas très connues et qui sont toujours très intéressantes à lire.
Alors, lorsqu'on disait à Sacha Guitry, quoi de neuf ?
Molière.
Alors, aujourd'hui, on pourrait dire quoi de neuf ? Sacha Guitry.
Ah oui, c'est tout à fait. Alors, vous aviez un grand ami de Sacha Guitry qui s'appelait Octave Mirbeau.
Bien sûr, dont grand écrivain.
Grand écrivain. Mais
Journal d'une femme de chambre, Le jardin du supplice.
Il avait une particularité, Octave Mirbeau. C'est qu'il prenait la défense des gens qui étaient attaqués par les gens qui ne s'y connaissaient pas, ou lui les découvrait avant. Il a pris la défense de Manet, de Cézanne, de Van Gogh. Il allait jusqu'à polémiquer avec les gens pour ça. Il se faisait beaucoup d'ennemis, mais il avait un courage et une perspicacité absolument extraordinaire. Et Octave Mirbeau est vraiment un très grand monsieur, et je dois avouer que je trouve très touchant cet homme intelligent, vif, qui n'hésite pas à prendre la défense des auteurs ou des peintres qui ne sont pas assez reconnus, qui vont voir les éditeurs, qui vont voir les directeurs de théâtre, qui vont regarder le tableau en disant « Mais vous devriez prendre ce peintre, il est remarquable. Vous devriez jouer cet auteur, il est extraordinaire. Vous devriez faire jouer cette personne, elle est remarquable. » Ça, c'était Octave Mirbeau, dont Sacha Guitry nous parle beaucoup dans le livre « Ceux de chez nous », nous disant tous les bienfaits qu'il a pu faire toute sa vie, avec une intelligence brillante et un courage mis au service des autres.
Dans votre ouvrage, on découvre également des mots de Lucien Guitry.
Ah, Lucien Guitry a écrit même plusieurs pièces de théâtre.
Ça, on l'ignore souvent.
Et vous savez, c'est ça qui est terrible. Nous avions parlé de Tristan Bernard, dont on ne se souvient plus des pièces.
Lors de notre dernière rencontre, nous avions évoqué une pièce qui avait été tournée pour la télévision.
Absolument, vous aviez retrouvé l'anglais tel qu'on le parle. Mm-hmm. Mais ce sont des... l'oubli, toutes les pièces ne passent pas à la postérité, et celles du 19e siècle, peu sont passées. Du 18e, on se souvient de Beaumarchais, ça donne une idée à peu près.
19e, il y a un qui reste Feydeau.
Voilà,
La Biche.
Voilà, vous avez Victor
Hugo. Et La Biche, ça a beaucoup vieilli quand même.
Ben, c'est-à-dire que le temps fait un tri naturel. Et comme Sacha Guitry ne parle que des rapports entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains, c'est comme pour Molière, ça ne se démode pas. Et ça, c'est une chose qui assure l'immortalité quand c'est vu avec un œil extrêmement précis.
Mais vous-même avez été sur scène pour jouer il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il.
Oui, alors je dois avouer qu'en plus, il m'est arrivé d'écrire, quand j'étais au cours de Jean-Laurent Cochet, une pièce qui s'appelle « Amour, mode d'emploi » avec des élèves du cours Cochet. Et j'avais joué également des 5 extraits de pièces de Sacha Guitry devant Jacqueline Aubard, la mère de Christian Aubard, il y a quelques années. C'est une merveille de pouvoir être sur scène et de pouvoir écrire. Et j'imagine le bonheur inouï qu'avait Sacha Guitry de pouvoir tous les soirs faire les deux.
Un de vos grands regrets, c'est de ne pas l'avoir vu sur scène, certainement.
Oui, mais malheureusement, c'est une situation qui est irrémédiable. Mais nous avons les films, mais nous avons ses écrits. Et grâce à ces films, nous savons exactement comment on doit jouer ces pièces, comment on peut voir ces films. Et nous savons, grâce à tous ces écrits et tous les livres que nous sommes en train de faire reparaître, pouvoir donner énormément de bonheur et apprendre des choses en même temps sur des êtres extraordinaires, ceux de chez nous.
Et Sacha regrettait de ne pas avoir pu filmer Molière, entre autres. Il parlait de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau.
Absolument. Et dans la préface de ceux de chez nous, le film, et dans les textes qui sont dans le livre également, il raconte que si on avait les pièces de Molière filmées avec Molière, ce serait très instructif pour savoir exactement Molière, dont on n'a même pas les manuscrits originaux.
Et dont certains disent maintenant que ce serait Corneille qui aurait écrit ces pièces. C'est une théorie qui court actuellement. Mais ça serait l'occasion d'un long débat que nous n'avons pas le temps de faire aujourd'hui, malheureusement, puisque nous allons arriver au terme de cette émission. Nous allons vous retrouver dans quelques semaines pour parler d'autres ouvrages de Sacha Guitry, parce qu'avec vous, on peut remplir le programme pour plusieurs semaines, heureusement d'ailleurs.
Avec grand plaisir.
Mais c'est toujours avec un grand plaisir pour nous également. Je rappelle le titre de cet ouvrage, il me reste 2 minutes, donc profitons-en. « Ceux de chez nous, Sacha Guitry ». Rappelons certains des ouvrages déjà parus par, aux éditions des Amis de Sacha Guitry. Il y a donc Yvonne Printemps, mais il y a eu...
Voilà, vous avez Si j'ai bonne mémoire, qui reprend uniquement les textes de Sacha Guitry. Nous avons publié Elles et toi, qui sont les textes de Sacha Guitry également. La fameuse pièce interdite par les Allemands en janvier 1941, car prenant la défense des Juifs, mon auguste grand-père. Et puis Les grands amis, c'est-à-dire Alphonse Allais, Monet, Tristan Renard. Bernard et Jules Renard, Albert Villemès, bien sûr, et Sarah Bernard, dont l'association a même publié les mémoires complètes, de façon à pouvoir avoir de son enfance jusqu'à la première tournée, et puis dans sa biographie, là, nous avons sa vie en entière. Et en ce qui concerne Molière, où il y a toujours ce petit débat, ce débat date depuis un certain temps. Et il y avait une plaisanterie d'Alphonse Allais, justement, qui disait la meilleure preuve que Shakespeare, parce qu'on lui dit la même chose, Shakespeare n'a pas écrit ses pièces, c'est qu'on l'appelait Willy. Willy étant, comme vous le savez, Marie. Et vos éditeurs aussi, le mari de Colette, qui avait scandaleusement signé que Colette écrivait.
Pas, enfin,
ah non, il n'écrivait pas du tout.
Par contre, il profitait des cachets de son épouse.
Oui, c'est pas très beau.
Très bien. Bah, nous allons terminer cette émission en écoutant, comme toujours, j'essaie de trouver une chanson un petit peu en rapport. Et j'ai choisi la chanson « La langue de chez nous » qui est interprétée par Yves Duteil, puisque ceux de chez nous, bon, l'un comme l'autre, célèbrent la langue française, ce qui me paraît tout naturel. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines où nous parlerons à nouveau de Sacha Guitry, puisque quoi de neuf, Sacha Guitry. Merci à vous.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.